Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans le bel album Simone de Beauvoir, paru aux éditions de la Pléiade en mai 2018, on trouve dans les premières pages une photo de Simone en août 1913, à l'âge de 5 ans. Il s'agit d'un portrait posé, pris de toute évidence chez un photographe. La petite fille au regard clair a l'air apprêtée, les cheveux longs noués par un ruban près de l'oreille. Elle porte une belle robe blanche de dentelle et une longue chaîne autour du cou. Elle a le visage négligemment appuyé sur sa main gauche et l'air profondément là, presque boudeur, reflet, suppose-t-on, de l'ennui que lui inspire cette séance photographique imposée. En 1974, sur France Culture, Geneviève Génari consacrait une série de 10 émissions à cette petite fille, ou plutôt à la femme et à l'écrivain qu'elle était entre-temps devenue. Il s'agissait de nous faire découvrir une Simone de Beauvoir insolite, loin des quelques clichés ou visions réductrices qui lui collaient à la peau, et ce à travers un choix d'extraits de ses récits autobiographiques, lus par la comédienne Emmanuelle Riva. Dans les deux premiers volets de la série, diffusés pour la première fois sur France Culture les 24 et 25 janvier 1974, on écoutait l'autoportrait de Simone, petite fille, puis adolescente.
On croit toujours connaître les auteurs célèbres. En réalité, plus un auteur est grand, plus il est complexe, plus il est multiple, et moins on le connaît. Particulièrement quand il est victime des simplifications abusives dont notre époque est coutumière. Dans le cas de Simone de Beauvoir, la simplification a été favorisée par deux facteurs. D'abord, elle passe un peu dans l'ombre de Sartre. Elle est souvent considérée comme son reflet ou son double. On l'appelait autrefois la Grande Sartreuse ou Notre-Dame de Sartre. Depuis 25 ans, elle s'est taillée sa part de soleil, mais elle a été victime d'un autre élément. On l'a enfermée, à cause du deuxième sexe qui a été son premier grand succès en 1949, dans une série d'images qui adultèrent peu ou prou sa véritable personnalité et dispense de chercher plus loin. On connaît mal Simone de Beauvoir parce que trop de clichés se sont superposés à son vrai visage et la masque. Elle rappelle elle-même avec humour les définitions ridicules qu'on lui a appliquées, tantôt une horloge dans un frigidaire, tantôt une nonne laïque. Or rien, ni dans sa vie, ni dans ses œuvres, n'autorise le lecteur à croire à des simplifications aussi fantaisistes. Il y a plus curieux, même ses fervents admirateurs, même les plus curieux de ses lecteurs peuvent facilement ne voir en elle soit la féministe extrême, soit la femme politiquement engagée, soit la puritaine qui déclare dans les mandarins ne pas pouvoir enlever ses gants de chevreau glacé. Il y a aussi la manichéenne qui divise volontiers le monde en rouge et noir, en bien et mal. Même Francis Janson, qui a écrit sur elle la meilleure biographie, L'entreprise de vivre, voit en elle une farouche moraliste, une terrible bûcheuse. Et elle-même se définit dans tout compte fait comme une bibliophage. Il faut bien dire que tout cela est vrai pour une part. Il ne faudra jamais oublier que Simone de Beauvoir revendique pleinement son statut d'intellectuelle qui se confond pour elle avec celui d'écrivain. Elle disait à Violette Leduc, qui la cite, « Vous écrivez, donc vous êtes une intellectuelle. » Une jeune fille qui travaillait à 20 ans 9 ou 10 heures par jour, qui a été agrégée de philosophie à 21 ans et qui n'a jamais cessé depuis presque 50 ans de tout lire, de tout voir, de tout connaître, avec une sorte de rage systématique, peut effectivement tromper sur son personnage. Mais l'intéressant, c'est précisément d'aller plus loin. Il y a une Simone de Beauvoir insoupçonnée. Il y a une femme derrière cet écrivain. Et il y a aussi, avant l'écrivain et la femme, il y a une petite fille. « On ne guérit jamais de son enfance », a dit Léon-Paul Fargue. S'il paraît insolite d'appliquer ce mot à une femme qui précisément semble avoir renié son premier milieu, s'être librement constituée et être devenue adulte très tôt, s'il paraît insolite de chercher l'enfant sous l'être le plus responsable de soi-même qu'on puisse imaginer, j'aurais déjà rempli une partie de mon rôle en alertant mon auditeur. Insolite Simone de Beauvoir. Remontons au début. Remontons aux sources. Et nous trouverons une petite fille qui fait penser à Colette. La Colette de l'enfance, justement. Celle qui, à 12 ans, se levait à 4 heures du matin pour se glisser hors de la maison, un panier à son bras, et guetter, là c'est Colette qui parle, le soleil encore ovale, déformé par son éclosion. Écoutons maintenant ce que nous dit Simone de Beauvoir dans les mémoires d'une jeune fille rangée. Il s'agit de ses vacances d'enfant en Limousin.
Le premier de mes bonheurs, c'était, au matin, de surprendre le réveil des prairies. Un livre à la main, je quittais la maison endormie, je poussais la barrière. Impossible de m'asseoir dans l'herbe embuée de gelée blanche. Je marchais sur l'avenue, le long du pré planté d'arbres choisis que grand-père appelait le parc paysager. Je lisais, à petits pas, et je sentais contre ma peau la fraîcheur de l'air s'attendrir. Le mince glacis qui voilait la terre fondait doucement. Le hêtre pourpre, les cèdres bleus, les peupliers argentés brillaient d'un éclat aussi neuf qu'au premier matin du paradis. Et moi, j'étais seule à porter la beauté du monde et la gloire de Dieu avec au creux de l'estomac un rêve de chocolat et de pain grillé. Quand les abeilles bourdonnaient, quand les volets verts s'ouvraient dans l'odeur ensoleillée des glycines, déjà je partageais avec cette journée qui pour les autres commençait à peine un long passé secret. Après les effusions familiales et le petit déjeuner, je m'asseyais sous le catalpa devant une table de fer et je faisais mes devoirs de vacances. J'aimais ces instants où, faussement occupé par une tâche facile, je m'abandonnais aux rumeurs de l'été. Le frémissement des guêpes, le caquetage des pintades, l'appel angoissé des paons, le murmure des feuillages. Le parfum des phlox se mêlait aux odeurs de caramel et de chocolat qui m'arrivaient par bouffées de la cuisine. Sur mon cahier dansaient des ronds de soleil. Chaque chose et moi-même, nous avions notre place juste ici, maintenant et à jamais. Je partais d'ordinaire me promener avec ma sœur. Nous griffant les jambes aux ajoncs, les bras aux ronces, nous explorions à des kilomètres à la ronde les châtaigneraies, les champs, les landes. Nous faisions de grandes découvertes, des étangs, une cascade. Au milieu d'une bruyère, des blocs de granit gris que nous escaladions pour apercevoir au loin la ligne bleue des monnaies d'hier. En chemin, nous goûtions aux noisettes, aux mûres des haies, aux arbouses, aux cornouilles, aux baies acides de l'épine vinette. Nous essayions les pommes de tous les pommiers. Mais nous nous gardions de sucer le lait des euphorbes et de toucher à ces beaux épis couleur de minium qui portent altièrement le nom énigmatique de sceau de Salomon. Étourdis par l'odeur du regain fraîchement coupé, par l'odeur des chèvrefeuilles, par l'odeur des blés noirs en fleurs, nous nous couchions sur la mousse ou sur l'herbe et nous lisions. Parfois aussi, je passais l'après-midi seule dans le parc paysager et je me saoulais de lecture tout en regardant s'allonger les ombres et volter les papillons.
N'est-ce pas le ton même de la Colette émerveillée de Sido? Le même étonnement d'être au monde, l'éblouissement du matin. Mais il n'y a pas que cela. Il est difficile, quand on évoque Colette, et ce texte, à mon avis, fait plus que l'évoquer, de ne pas penser au goût des nourritures terrestres qui traversent toute son œuvre. Eh bien, je ne sais pas si l'on a déjà noté l'importance extrême de tout ce qui touche à la nourriture pour Simone de Beauvoir. Non pas au sens vulgaire de gourmandise. Quand elle est jeune professeure, nous la voyons se contenter le soir d'un bol de chocolat ou d'une tranche de jambon et les grands soirs de foie gras mari. Il est certain pourtant qu'elle fait une place au plaisir de la table dans ses mémoires. Elle se rappelle 30 ans après avoir mangé tel canard au sang à Rouen, cette poule aux érelles aux Vikings à Paris, des andouillettes à Vouvray. Et dans tout compte fait, son dernier livre, elle nous parle avec volupté des quiches et des quenelles qu'elle a découvertes en province. En réalité, il y a là une fixation qui remonte très loin. On a pu parler d'elle comme d'une voratrice, au sens de dévoratrice, douée d'une sensualité orale particulière. Et ce n'est pas un hasard, naturellement, si elle-même, à 20 ans, rêve de ce qu'elle appelle une vie dévorante. Quand elle est enfant, sa fixation orale, au sens psychanalytique, semble déjà extrêmement forte.
Je profitais passionnément du privilège de l'enfance pour qui la beauté, le luxe, le bonheur sont des choses qui se mangent. Devant les confiseries de la rue Vavin, je me pétrifiais, fasciné par l'éclat lumineux des fruits confits, le sourd chatoiement des pâtes de fruits, la floraison bigarrée des bonbons acidulés, vert, rouge, orange, violet. Je convoitais les couleurs elles-mêmes autant que le plaisir qu'elles me promettaient. J'avais souvent la chance que mon admiration s'acheva en jouissance. Maman concassait des pralines dans un mortier. Elle mélangeait à une crème jaune la poudre grenue. Le rose des bonbons se dégradait en nuances exquises. Je plongeais ma cuillère dans un coucher de soleil. Les soirs où mes parents recevaient, les glaces du salon multipliaient les feux d'un lustre de cristal. Maman s'asseyait devant le piano à queue, une dame vêtue de tulle jouait du violon et un cousin du violoncelle. Je faisais craquer entre mes dents la carapace d'un fruit déguisé, une bulle de lumière éclatait contre mon palais avec un goût de cassis ou d'ananas. Je possédais toutes les couleurs et toutes les flammes, les écharpes de gaz, les diamants, les dentelles. Je possédais toute la fête. Les paradis où coule le lait et le miel ne m'ont jamais alléché, mais j'enviais à Dame Tartine sa chambre à coucher, en échaudée. Cet univers que nous habitons, s'il était tout entier comestible, quelle prise nous aurions sur lui. Adulte, j'aurais voulu brouter les amandiers en fleurs, mordre dans les pralines du couchant. Contre le ciel de New York, les enseignes au néon semblaient des friandises géantes et je me suis sentie frustrée. Manger n'était pas seulement une exploration et une conquête, mais le plus sérieux de mes devoirs. Une cuillère pour maman, une pour bonne maman. Si tu ne manges pas, tu ne grandiras pas. On m'adossait au mur du vestibule, on traçait au ras de ma tête un trait qu'on confrontait avec un trait plus ancien. J'avais gagné 2 ou 3 centimètres, on me félicitait et je me rengorgeais. Parfois pourtant, je prenais peur. Le soleil caressait le parquet ciré et les meubles en laqué blanc. Je regardais le fauteuil de maman et je pensais « Je ne pourrai plus m'asseoir sur ses genoux. » Soudain, l'avenir existait. Il me changerait en une autre qui dirait « moi » et ne serait plus moi. J'ai pressenti tous les sevrages, les reniements, les abandons et la succession de mes morts. Une cuillère pour bon papa. Je mangeais pourtant et j'étais fière de grandir. Je ne souhaitais pas demeurer à jamais un bébé. Il faut que j'aie vécu ce conflit avec intensité pour me rappeler si minutieusement l'album où Louise me lisait l'histoire de Charlotte. Un matin, Charlotte trouvait sur une chaise au chevet de son lit un œuf en sucre rose, presque aussi grand qu'elle. Moi aussi, il me fascinait. Il était le ventre et le berceau et pourtant, on pouvait le croquer. Refusant toute autre nourriture, Charlotte rapetissait de jour en jour, elle devenait minuscule. Elle manquait se noyer dans une casserole, la cuisinière l'achetait par mégarde dans la caisse à ordures, un rat l'emportait. On la sauvait, effrayée, repentante, Charlotte se gavait si gloutonnement qu'elle enflait comme une baudruche. Sa mère conduisait chez le médecin un monstre ballonné. Je contemplais avec une sage appétence les images illustrant le régime prescrit par le docteur. Une tasse de chocolat, un œuf à la coque, une côtelette dorée. Charlotte retrouvait ses dimensions normales et j'émergeais saine et sauve de l'aventure qui m'avait tour à tour réduite en fœtus et changée en matrone.
C'était Simone de Beauvoir Insolite, premier volet, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 janvier 1974. Tout de suite, le deuxième épisode de cette série, diffusé le lendemain.
Cette énorme sensorialité en puissance, dont nous avons parlé la dernière fois, et qui est une des données les plus fondamentales et les moins souvent reconnues de Simone de Beauvoir, se transforme avec l'adolescence puis la jeunesse en simple sensualité. D'abord sur un mode encore très général et très vague. Il est courant de voir en Simone de Beauvoir une vraie jeune fille rangée. Comme elle le croit peut-être, en tout cas de bonne foi. Mais elle n'est pas restée longtemps aussi rangée qu'elle le dit. Tout au moins pour l'époque où elle a eu 20 ans, en 1928. Elle serait une jeune fille rangée d'aujourd'hui, ce qui est très différent. À 18 ans, déjà, elle aime les jean-fees, l'ivresse légère, les endroits un peu louches, et même les dangers encourus. Elle n'a pas encore rencontré Sartre, elle est platoniquement amoureuse de son cousin Jacques. Elle se réclame de la colombe d'Alain Fournier qui se jeta dans un étang pour ne pas transiger avec la pureté. Mais enfin, quelque chose se passe déjà, qui nous montre bien que, contrairement à la théorie admise, Simone de Beauvoir n'a pas attendu la rencontre de Sartre pour être complètement étrangère à son propre milieu.
J'allais ordinairement au Jockey, boulevard Montparnasse. Jacques m'en avait parlé et j'aimais sur les murs les affiches coloriées où se mêlaient le canotier de Chevalier, les souliers de Charlot, le sourire de Greta Garbo. J'aimais les bouteilles lumineuses, les petits drapeaux bigarrés, l'odeur de tabac et d'alcool, les voix, les rires, le saxophone. Les femmes m'émerveillaient. Il n'y avait pas de mots dans mon vocabulaire pour désigner le tissu de leurs robes, la couleur de leurs cheveux. Je n'imaginais pas qu'on pût acheter dans aucun magasin leurs bas impalpables, leurs escarpins, le rouge de leurs lèvres. Je les entendais débattre avec des hommes le tarif de leur nuit et des complaisances dont elles les régaleraient. Mon imagination ne réagissait pas, je l'avais bloquée. Les premiers temps, surtout, il n'y avait pas autour de moi des gens de chair et d'os, mais des allégories. L'inquiétude, la futilité, l'hébétude, le désespoir, le génie, peut-être, et sûrement le vice aux multiples visages. Je restais convaincue que le péché est la place béante de Dieu, et je me perchais sur mon tabouret avec la ferveur qui me prostrait enfant au pied du Saint-Sacrement. Je touchais la même présence. Le jazz avait remplacé la grande voix de l'orgue, et je guettais l'aventure comme autrefois j'attendais l'extase. Dans les bars, m'avait dit Jacques, il suffit de faire n'importe quoi et des choses arrivent. Je faisais n'importe quoi. Si un client entrait, le chapeau sur la tête, je criais « Chapeau !» et je jetais en l'air son couvre-chef. Je cassais un verre par-ci par-là. Je pérorais, j'interpellais les habitués que j'essayais naïvement de mystifier. Je me prétendais modèle ou putain. Avec ma robe fanée, mes gros bas, mes souliers plats, mon visage sans art, je ne trompais personne.
Elle ne trompe personne, nous dit-elle. Mais ce sont les autres qui se trompent. Oh, bien sûr, l'apparence est contre elle. Elle n'est ni coquette, ni sportive, elle porte des bandeaux. Mais enfin, elle a déjà le goût de l'alcool, elle a perdu la foi, malgré l'amitié de son amie Zaza, très pieuse, et elle cherche obscurément l'aventure.
Je rôdais longtemps sur le boulevard Barbès. Je regardais les putains, les voyous, non plus avec horreur, mais avec une espèce d'envie. De nouveau, je m'étonnais. Il y a en moi, je ne sais quel peut-être monstrueux désir, depuis toujours présent, de bruit, de lutte, de sauvagerie, d'enlisement surtout. Que faudrait-il aujourd'hui pour que moi aussi je sois morphinomane, alcoolique, et je ne sais quoi encore ? Une occasion seulement, peut-être une fin un peu plus grande de tout ce que je ne connaîtrai jamais. Par moments, je me scandalisais de cette perversion, de ces bas instincts que je découvrais en moi. Qu'aurait pensé Pradel qui m'accusait autrefois de prêter à la vie trop de noblesse ? Je me reprochais d'être duplice, hypocrite. Mais je ne songeais pas à me renier. Je veux la vie, toute la vie. Je me sens curieuse, avide, avide de brûler plus ardemment que tout autre, fût-ce à n'importe quelle flamme. J'étais à deux doigts de m'avouer la vérité. J'en avais assez d'être un pur esprit.
Quand elle rencontre Sartre, elle a 20 ans. Il est à l'école normale, avec Nizan, Raymond Aron, André Herbeau. Les élèves de Saturne s'amusent à diviser les femmes en femmes humeuses, en femmes qui ont une destinée, et tout de suite, Simone de Beauvoir est rangée dans cette catégorie. Tout cela répond à l'image qu'on se fait de deux jeunes intellectuels en rupture de bourgeoisie, suprêmement intelligents, et personne ne s'étonne de voir Sartre et Simone de Beauvoir en 1929 commencer une liaison qui dure encore aujourd'hui. Et pourtant, là aussi, il y a quelque chose d'insoupçonné. C'est la violence de l'amour physique qui accompagne ce coup de foudre intellectuel. Sartre déclare à Simone de Beauvoir au printemps de 1929 « À partir de maintenant, je vous prends en main. » Il ne s'agissait alors que de préparer l'oral de l'agrégation. Mais enfin, quand bien plus tard, Suzanne Lillard dira qu'il s'agit d'un couple d'associés, il semble bien qu'elle cède pour une fois à une des simplifications que Simone de Beauvoir semble toujours attirer. En réalité, Simone de Beauvoir a été une jeune femme comblée. Et il y a, à l'origine de sa longue histoire d'amour, un couple d'amants fous. Dans La force de l'âge, elle avoue sans ambiguïté la frustration qu'elle ressent quand elle est séparée de son nouvel ami. En 1930, en effet, Sartre fait son service militaire à Tours, elle reste à Paris, elle ne le voit que pendant les week-ends. Et c'est par la violence de cette frustration qu'il faut imaginer la plénitude de son épanouissement physique.
Quand le cœur, la tête et la chair sont à l'unisson, prendre corps est une grande fête. Je ne connus d'abord que la joie. C'était conforme à mon optimisme et commode pour mon orgueil. Mais bientôt, les circonstances m'infligèrent la révélation dont j'avais eu à 20 ans un pressentiment inquiet, le besoin. Je l'ignorais, je n'avais connu ni la faim, ni la soif, ni le sommeil. Soudain, je fus sa proie. Je passais loin de Sartre des jours, des semaines. À Tours, le dimanche, nous étions trop timides pour monter en plein jour dans une chambre d'hôtel. D'ailleurs, je refusais que l'amour prît la figure d'une entreprise concertée. Je voulais qu'il fût libre, mais non délibéré. Je n'admettais ni qu'on cédât contre son gré à des désirs, ni qu'on organisât de sang-froid ses plaisirs. La joie amoureuse devait être aussi fatale et aussi imprévue que la houle des mers, que la floraison d'un péché. Je n'aurais pas su expliquer pourquoi, mais l'idée d'une distance entre les émotions de mon corps et mes décisions m'effrayait. Et précisément, ce divorce s'accomplit. Mon corps avait ses humeurs et j'étais incapable de les contenir. Leur violence submergeait toutes mes défenses. Je découvris que le regret, quand il atteint la chair, n'est pas seulement une nostalgie, mais une douleur. De la racine de mes cheveux à la plante de mes pieds, il tissait sur ma peau une tunique empoisonnée. Je détestais souffrir. Je détestais ma complicité avec cette souffrance qui naissait de mon sang et j'allais jusqu'à détester le bruissement de mon sang dans mes veines. Dans le métro, le matin, encore engourdi de nuit, je regardais les gens et je me demandais « Connaissent-ils cette torture ? Comment se fait-il qu'aucun livre ne m'en ait jamais décrit la cruauté ?» Peu à peu, la tunique se défaisait. Je retrouvais contre mes paupières la fraîcheur de l'air. Mais le soir, l'obsession se réveillait. Des milliers de fourmis couraient sur ma bouche. Dans les glaces, j'éclatais de santé et un mal secret pourrissait mes os.
La sensualité ardente et robuste de Simone de Beauvoir est appuyée sur une santé insolente. Elle s'enlève sur un fond de vigueur physique qu'elle-même reconnaîtra comme une de ses plus grandes chances. Dans L'Invité, par exemple, l'héroïne Françoise est dotée d'une santé de percheron. Contrairement à beaucoup de jeunes filles, Simone de Beauvoir a découvert la pure sensualité avant les autres possibilités de son corps. Elle apprendra à skier à 25 ans, à nager à 30 ans, à conduire vers la quarantaine. Par contre, elle s'est spécialisée très jeune dans un sport qu'elle a pratiqué avec une sorte de rage, une passion systématique, c'est la marche. C'est à Marseille, jeune professeure, qu'elle se lance dans la pratique de la marche, jusqu'à 40 km par jour. Une marche à la fois solitaire et dirigée vers un but précis, volontaire et libre, qu'elle pratique comme une ascèse et comme une volupté, comme un besoin et comme une drogue. Avec le recul, ce qui frappe dans cette monomanie, c'est la formidable réserve d'énergie qu'elle prouve. C'est la recherche d'un contact avec la nature dans ce qu'elle a de plus sauvage, et finalement, la force brute d'un corps puissamment incarné.
Je montais dans un train, un matin, chargé d'un sac à dos qui contenait des vêtements, une couverture, un réveil, un guide bleu et un jeu de cartes Michelin. Je partis de la Chaise-Dieu et pendant 3 semaines, je marchais. J'évitais les routes, coupant au vif des prés et des bois, aspiré par tous les sommets, dévorant des yeux les panoramas, les lacs, les cascades, les secrets des clairières et des vallons. Je ne pensais à rien, j'allais, je regardais. Je portais tous mes biens sur mon dos, j'ignorais où je dormirais le soir, et la première étoile ne brisait pas mon aventure. J'aimais le repliement des corolles et du monde quand descend le crépuscule. Parfois, marchant sur la croupe d'une colline délaissée des hommes et que la lumière même abandonnait, il me semblait frôler cette insaisissable absence que déguise unanimement tous les décors. Une panique me prenait, pareille à celle que j'avais connue à 14 ans dans le parc paysager où Dieu n'était plus, et comme alors je courais vers des voies humaines. Je mangeais une soupe, je buvais du vin rouge dans une auberge. Souvent je répugnais à me séparer du ciel, de l'herbe, des arbres, je voulais en retenir au moins l'odeur. Au lieu de prendre une chambre dans un village, je faisais encore 7 à 8 kilomètres et je demandais l'hospitalité dans un hameau. Je dormais dans une grange, et la senteur du foin bourdonnait à travers mes rêves. La nuit qui m'a laissé le plus vif souvenir, c'est celle que je passais sur le Mézinc. Je comptais dormir dans le lugubre hameau des étables au pied de la montagne. Il faisait encore jour quand je m'y arrêtais et on me dit qu'il y avait un refuge sur le sommet à moins de 2 heures de marche. J'achetai du pain, une bougie, je fis remplir de vin rouge ma gourde enveloppée de feutre et je montai à travers des pâturages en fleurs. Le crépuscule tomba, puis l'obscurité. Il faisait tout à fait sombre quand je poussai la porte d'un cagibi en pierraille grise, meublé d'une table, d'un banc et de 2 planches inclinées. Je fichai ma bougie sur la table, je mâchonnai un peu de pain et je bus tout mon vin pour me donner du cœur, car cette haute solitude était un peu angoissante. Le vent soufflait dru entre les cailloux des murs. Mon sac en guise d'oreiller, une planche pour matelas, recroquevillée sous une couverture qui ne me défendait pas du froid, je dormis très mal. Mais j'aimais, dans mon insomnie, sentir autour de moi l'immense désert de la nuit. J'étais aussi perdue que si j'avais vogué dans un aéronef. Je me réveillais à 6 heures sous un ciel éclatant, baigné dans une odeur d'herbe et d'enfance. Un nuage opaque sous mes pieds me coupait de la terre. J'émergeais seul dans l'azur. Le vent continuait à souffler. Il s'engouffrait dans la couverture dont j'essayais de m'envelopper. J'ai attendu. La ouate grise en dessous de moi s'est déchirée et j'ai aperçu au fond de ces crevasses des morceaux de campagne ensoleillée. J'ai dévalé en courant le versant opposé à celui que j'avais gravi. Quel soleil ! Il a brûlé mes pieds que j'avais eu l'étourderie de laisser nus dans des espadrilles de toile. Je commençais à souffrir le martyr en arrivant à Saint-Agrève où j'ai dû m'arrêter 24 heures. Couché, c'était une telle torture de me mettre debout que je me traînais en rampant à travers ma chambre. Quand je me repris à marcher, toute pause me suppliciait. J'achetai des provisions dans une épicerie et pendant que le commis me servait, je ne cessais d'aller et venir comme un fauve en cage. La douleur finit par se calmer et je repartis, les pieds protégés par des soquettes.
C'était Simone de Beauvoir Insolite, premier et deuxième volet d'une série de 10 émissions proposées par Geneviève Génari et diffusées pour la première fois sur France Culture les 24 et 25 janvier 1974. Les textes de Simone de Beauvoir étaient lus par Emmanuel Riva et sont publiés aux éditions Gallimard. À suivre.